Chaud devant à Saint-Pierre pour la 3, une religieuse pour la 7 et une bouteille de Saint-Émilion pour la 12.
Moïse en entrée,
Jésus au dessert,
et comme plat principal,
Jésus allait-il à la messe le dimanche.
Salut Marc.
Salut Samuel. Alors, de quoi parle-t-on aujourd'hui ?
De la messe.
La messe, une institution. Et au fait, ça vient d'où la messe ?
D'un commandement de notre Seigneur Jésus-Christ. Souviens-toi, vous ferez cela en mémoire de moi.
Ah oui, c'est la scène, là, le dernier repas de Jésus avec les apôtres, lors de la Pâque, juste avant la crucifixion.
Tout à fait. Si nous prenons ce que dit saint Paul de la scène, dans sa première lettre aux Corinthiens, « Le Seigneur Jésus, la nuit où il était livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps, qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. » Chaque fois en effet que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne.
Donc la messe, c'est une action de grâce, un mémorial.
Oui, un mémorial de la mort et de la résurrection du Christ. Et pas spécifiquement de la scène en tant que telle.
Mais ça date de quand ?
Si on lit dans le livre des Actes des Apôtres, ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte gagnait tout le monde. Beaucoup de prodiges et de signes s'accomplissaient par les apôtres. Tous ceux qui étaient devenus croyants étaient unis et mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens pour en partager le prix entre tous, selon les besoins de chacun. Unanimes, ils se rendaient chaque jour assidûment au temple. Ils rompaient le pain à domicile, prenant leur nourriture dans l'allégresse et la simplicité de cœur. Tu as là dans les Actes des Apôtres la description de la première communauté chrétienne, tout de suite après la résurrection de Jésus. Comme tu peux le remarquer, ça ressemble étrangement à la messe.
Oui, un enseignement, prière, fraction du pain, ça ressemble. Mais d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on fait ça le dimanche ?
D'abord, la messe, c'est tous les jours. Mais pourquoi le dimanche est-il un jour spécial ? Si on prend les Actes des Apôtres au chapitre 20. Pour nous, après les jours des pains sans levain, nous embarquâmes à Philippe, et au bout de 5 jours, nous les rejoignîmes à Troas, où nous passâmes 7 jours. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples, et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Donc ici, la réunion pour rompre le pain avait lieu le premier jour de la semaine, dimanche, qui est aussi le jour anniversaire de la résurrection de Jésus.
Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça à part, dans une église ?
En fait, c'est une bonne question. Ce qu'on peut imaginer pour la communauté primitive, et on en trouve des témoignages dans saint Paul, c'est que ce sont des agapes, c'est-à-dire qu'on a une eucharistie au cours d'un repas. Mais dès le IIe siècle, on a la dissociation entre le repas et l'Eucharistie proprement dite. C'est un premier élément. Le deuxième élément important, si on prend l'exemple du Shabbat, on a le repas d'entrée en Shabbat avec les bénédictions, mais avant, la famille va prier à la synagogue. Donc, une des hypothèses est de se dire que dans le fond, dans les premières communautés judéo-chrétiennes, on a eu la dissociation du repas et puis une synthèse entre l'office synagogal et l'Eucharistie. Mais c'est une hypothèse.
Donc, ça ne s'est plus jamais fait au cours d'un repas ?
Il y a une explication à cette séparation. Si on reprend le texte corinthien, « Et puisque j'en suis aux recommandations, je n'ai pas à vous louer de ce que vos réunions tournent non pas à votre bien mais à votre détriment. Car j'apprends tout d'abord que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il se produit parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Lors donc que vous vous réunissez en commun, ce n'est pas le repas du Seigneur que vous prenez. Dès qu'on est à table, en effet, chacun prend d'abord son propre repas, et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. » Vous n'avez donc pas de maison pour manger et boire ? Ou méprisez-vous l'église de Dieu et voulez-vous faire honte à ceux qui n'ont rien ? Que vous dire ? Vous louez ? Sur ce point, je ne vous loue pas.
Donc, séparation entre un repas et une eucharistie.
Oui, les expressions primitives « fraction du pain » et « repas du Seigneur » laissent la place au terme « eucharistie » qui veut dire « action de grâce ». Que nous trouvons d'ailleurs chez saint Ignace d'Antioche et saint Justin.
D'accord. Donc au début, tout se faisait lors d'un repas. Et c'est ensuite qu'on est passé à un lieu différent, la synagogue, et aujourd'hui l'église. Au fait, ça veut dire quelque chose, église ?
Ça vient d'ecclésia, qui veut dire l'assemblée.
D'accord. Donc la messe, c'est l'assemblée des fidèles pour la commémoration de la mort et de la résurrection du Christ. Et la structure de la messe, je suppose qu'elle a changé au fur et à mesure des siècles, avec les différents papes et puis les mœurs de l'époque, non ?
Eh bien pas du tout. On a le témoignage de Justin, au IIe siècle avant Jésus-Christ. Dans son apologie, et nous donne déjà la structure de la messe. Tiens, lis-le.
Le jour qu'on appelle le jour du soleil, le dimanche, tous, qu'ils habitent la ville ou la campagne, s'assemblent dans un même lieu. On lit les mémoires des apôtres et les écrits des prophètes aussi longtemps qu'il est possible. Quand le lecteur a fini, celui qui préside prend la parole pour nous avertir et pour nous exhorter à mettre en pratique ses beaux enseignements. Ensuite, nous nous levons tous et nous faisons ensemble des prières. Puis, lorsque la prière est terminée, on apporte du pain avec du vin et de l'eau. Celui qui préside fait monter au ciel des prières et des actions de grâce, autant qu'il en est capable, et tout le peuple répond par l'acclamation « Amen ». Alors, on distribue et on partage à chacun les dons sur lesquels a été proclamée l'action de grâce. Ces dons sont envoyés aux absents par les ministères des diacres.
Dans la description de Justin, les deux grands moments de la messe apparaissent très clairement. Tout d'abord, il y a la liturgie de la parole, avec les lectures, la prédication. Et ensuite, tu as la liturgie eucharistique, proprement dite, qui commence avec la prière des fidèles. Pour les chrétiens des premiers siècles, l'assemblée liturgique, qui réunit tous les baptisés, est centrale. Elle constitue la vie même de la communauté. On peut donc se dire que dès le IIe siècle, la structure de la messe est fixée.
Dès le IIe siècle? Et pas de changement alors?
Très peu de changement en fait. Et avec le Concile Vatican II, on est plutôt revenu à la structure originelle.
Deux temps principaux à la messe?
En fait, il y en a quatre. La messe se déroule en quatre temps. Ouverture, liturgie de la parole, liturgie eucharistique et rite de conclusion. Mais effectivement, il y a deux parties principales. Si on lit les textes administratifs de l'Église, on trouve « La messe comporte comme deux parties, la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique, mais elles sont si étroitement liées qu'elles forment un seul acte de culte. En effet, la messe dresse la table aussi bien de la parole de Dieu que du corps du Seigneur, où les fidèles sont instruits et restaurés. » On parle communément des deux tables du Seigneur, l'ambon où est servi le pain savoureux de la parole de Dieu et l'autel où est rompu le corps de Jésus-Christ. Le même et unique repas du Seigneur comprend indissociablement ces deux parties. On ne doit pas porter moins d'attention à l'une qu'à l'autre. Écoutons pour nous en persuader ce que disait déjà le vieil Origène.
Vous qui assistez habituellement au divin mystère, vous savez avec quelle précaution respectueuse vous gardez le corps du Seigneur lorsqu'il vous est remis, de peur qu'il n'en tombe quelques miettes et qu'une part du trésor consacré ne soit perdue. Car vous vous croiriez coupable et en cela vous avez raison si votre négligence en perdait quelque chose. Que si lorsqu'il s'agit de son corps, vous apportez à juste titre autant de précautions, pourquoi voudriez-vous que la négligence de la parole de Dieu mérite un moindre châtiment que celle de son corps? Bon, parlons de ces deux parties. D'abord, la liturgie de la parole. Comment ça s'organise?
À la synagogue, le jour du Shabbat, il y avait une première lecture de la Torah, c'est-à-dire des cinq premiers livres de la Bible, puis suivait une lecture des prophètes. Enfin, venait l'homélie. On découvre ce schéma dans le livre des Actes des Apôtres. Lorsque Paul et Barnabé entrent à la synagogue d'Antioche de Pisidie, le jour du Shabbat, il est dit « Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire « Frères, si vous avez quelques paroles d'encouragement à dire au peuple, parlez. » On entrevoit la même séquence liturgique dans la synagogue de Nazareth, mais cette fois c'est Jésus qui est invité à lire le livre du prophète et à faire l'homélie. Eh bien tu vois, notre liturgie catholique, ça fonctionne pareil.
D'accord, donc ça c'est la liturgie de la parole. Et ensuite, il y a la liturgie eucharistique, le pain et le vin.
Tout à fait, le mémorial de la mort et de la résurrection du Christ.
Mais comment se fait-il qu'on fasse ce mémorial à travers du pain et du vin?
L'influence des traditions juives sur l'Eucharistie est manifeste. Le soir de la Pâque, les Juifs célèbrent en effet le seder, le repas pascal. Et sur la table figurent sept mets symboliques, comme des herbes amères pour rappeler les souffrances du peuple hébreu avant sa libération d'Égypte, mais aussi du pain azim.
C'est quoi du pain azim?
C'est le pain sans levain. Il est consommé en mémoire de la fuite d'Égypte.
Ah ok, c'est comme l'hostie.
Oui, et sur la table du seder, il y a également une coupe de vin qui est réservée au prophète Élie dont le retour est attendu.
Donc on retrouve le pain et le vin dans la tradition juive, en mémoire de la sortie d'Égypte.
Tout à fait. Jésus et ses disciples faisaient mémoire de cette sortie le jour de la scène. Pour nous, chrétiens, le pain et le vin prennent un sens particulier. Le pain, c'est le corps du Christ, l'agneau de Dieu.
L'agneau de Dieu?
Pour les chrétiens, l'agneau fait référence au Christ, l'agneau de Dieu, qui donne sa vie en sacrifice, qui conduit le troupeau, les brebis de Dieu. Mais dans la Bible, le sacrifice de l'agneau, il est aussi commandé aux Hébreux avant la traversée de la mer Rouge. Dans le livre de l'Exode, on lit « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, et le fléau destructeur ne vous atteindra pas. Quand je frapperai le pays d'Égypte, ce jour-là vous servira de mémorial. » Le sacrifice de Jésus est assimilé au sacrifice du bouc émissaire, avec plusieurs dimensions dans cette notion. Le bouc émissaire qui se charge du péché des hommes.
Donc tuer le bouc émissaire, c'est tuer ses péchés. Donc Jésus meurt pour que le monde soit purifié en quelque sorte.
C'est pour ça qu'on parle de Jésus comme de l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est l'agneau du sacrifice.
Donc l'hostie, c'est le corps du Christ, et le vin, le sang du Christ.
Oui, le vin, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle.
Ça me fait encore penser à Moïse et à l'alliance au Sinaï, où Moïse répand sur le peuple le sang du sacrifice en disant « Ceci est le sang de l'alliance que le Seigneur a conclu avec vous. »
Oui, et « alliance nouvelle » est une allusion à la prophétie de Jérémie. « Voici venir des jours où je conclurai avec la maison d'Israël une alliance nouvelle. » Pour conclure, on pourrait prendre en Saint Jean, chapitre 6, « Qui mange ma chair et boit mon sang, dit Jésus, demeure en moi et moi en lui. Il a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. »
C'était
Moïse en entrée,
Jésus au dessert,
une émission dans la dynamique du Festival de la Parole,
présentée par Samuel et Marc Landon.
Plat du jour de la semaine prochaine,
le roi David avait-il une belle voix ?